Je vous invite à ouvrir votre Bible ou connecter votre téléphone s'il reste silencieux dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament. Évangile de Luc, au chapitre 15. Nous lirons les versets 11 à 31. Luc 15, versets 11 à 31. C'est Jésus qui parle. Puis Jésus poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit : Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route. » J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Jusqu'ici notre lecture. Jésus aimait raconter des paraboles. Les paraboles sont des histoires qui s'inscrivent pleinement dans la vie quotidienne du temps de Jésus, puisqu'elles étaient destinées, en premier lieu et en direct, aux auditeurs qui suivaient Jésus ou s'arrêtaient pour l'écouter. Mais si elles sont reprises dans le Nouveau Testament, et si Luc, en l'occurrence, s'est donné la peine, guidé par l'Esprit Saint, d'écrire notre parabole du jour, c'est pour donner à ses lecteurs une perspective bien actuelle, reliée à leur temps. Et c'est aussi vrai pour nous. Lecteur du XXIe siècle. Cette parabole est souvent connue sous le nom de parabole du fils prodigue. C'est un peu dommage, vu sa richesse et sa profondeur, qui dépasse très largement le seul fils prodigue. Effectivement, dans cette histoire, il n'y en a qu'un de fils prodigue. C'est le cadet, celui qui dépense son argent sans compter. Voilà pour la définition de prodigue. En revanche, on l'a vu, il y a bien deux fils perdus et peut-être retrouvés, nous le verrons à la fin. Un père, deux fils, voilà pour les personnages. Quant au contexte, il nous est relaté au verset 2 de ce chapitre 15. Jésus accueille les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, et cet accueil suscite quelques interrogations autour de lui, notamment de la part des pharisiens et des scribes, les bien-pensants de l'époque. Je nous invite à parcourir ensemble cette parabole pour d'abord découvrir les relations au sein de cette famille presque banale, puis nous regarderons attentivement les choix structurants de chacun des deux fils, des choix qui engagent aux conséquences certaines et parfois imprévues. Enfin, nous mettrons en lumière ce père rempli d'amour et de grâce infinie. Commençons par le commencement. On a là l'histoire d'une famille, un père et ses deux fils. Ainsi débute notre parabole. Toute la première partie de notre histoire traite du fils prodigue, le fameux, le vrai, l'unique, celui que nous connaissons souvent le mieux. Alors profitons-en et parlons-en de ce fils prodigue. Au verset 12, il porte un coup de grâce à son père. Je lis dans le texte, le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Le cadet demande sa part d'héritage. Bien, mais approfondissons un peu le contexte historique. L'héritage destiné au cadet pouvait représenter jusqu'à un tiers des biens matériels, selon le Deutéronome. Seulement, d'après le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est que sur le lit de mort que le père partageait alors son héritage. Ecclésiaste 33:24 nous relate « Quand seront consommés les jours de ta vie, à l'heure de la mort, distribue ton héritage. » Et selon les traditions, il y a bien pu avoir quelques situations exceptionnelles à l'occasion desquelles le partage des biens s'est fait du vivant du père. Mais la jouissance de ces biens n'était possible qu'après sa mort. Le cadet fait la preuve d'une exigence totalement injustifiée et par là même humilie son père. Et cette humiliation a un côté public à l'époque, car tout le village ne tarde alors pas à le savoir aussi rapidement que via Twitter aujourd'hui. Et le père, dans un premier geste de grâce démesurée, accorde à son fils cadet la part qui devait plus tard lui revenir. On l'a dit, la première partie met l'accent sur le fils cadet, le fils prodigue. Cependant, il peut être intéressant pour notre compréhension de voir ce que l'histoire dit sur l'aîné, sur le fils aîné. Et oui, s'il y a un cadet, c'est qu'il y a un aîné. Ma femme vous dirait que je n'y connais pas grand-chose en science et vie de la terre, et je veux bien l'admettre. En revanche, une vérité comme celle-là, c'est de mon niveau. Alors, que dit notre texte sur l'aîné ? À première vue, dans ce qu'on a lu au début du texte, pas grand-chose. Mais si on regarde bien la fin du verset 12, et je lis encore dans le texte, « Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. » C'est tout ? Oui, c'est tout, et rien d'étonnant peut-être là encore pour nous, à notre époque. Mais pour un auditeur du temps de Jésus, cette situation n'était pas plus acceptable que celle du cadet qui demande sa part d'héritage à son père, vivant devant lui. Un juif du temps de Jésus aurait été certainement choqué par le silence significatif de l'aîné. Son silence et son manque, son absence même d'initiative. Son rôle aurait été de jouer le médiateur dans le conflit opposant le cadet à son père. Il aurait dû réguler son petit frère, le remettre fermement à sa place, lui demander d'honorer son père comme il le doit, comme le cinquième commandement de la Torah le lui demandait. Mais il se tait. Et non seulement il se tait, mais en plus il récupère son héritage. Cela peut suggérer déjà à demi-mot les tensions qu'il y avait dans cette famille, entre le père et chacun de ses fils, mais aussi entre les deux frères. Et ces tensions ressortent de manière beaucoup plus marquée à la fin du texte. Je nous propose d'y faire un saut immédiatement. Pas de spoiler ici, nous connaissons tous la chute. Alors relisons à partir du verset 28. Alors que le cadet est revenu à la maison et que l'aîné se met en colère contre son père, relisons le texte. Verset 28. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Lorsque l'aîné s'adresse à son père, il n'emploie aucune formule de politesse, d'usage pendant l'époque. Puis les mots qu'il utilise sont durs. Il se place en serviteur et non en fils. Il évoque les ordres du père plutôt que son amour. Et il lui dit « ton fils » plutôt que de lui dire « mon frère » en parlant du cadet. On sent l'amertume, les frustrations enfouies certainement depuis bien longtemps. On sent l'éloignement entre son frère et lui. Plus rien ne les rapproche, et cela fait des années qu'ils ne se sont pas vus. On sent ces tensions palpables dans cette famille finalement presque banale, comme les autres. Je le reconnais, ce n'est pas forcément le cœur de la parabole, ce sujet de la famille. Et pourtant, cette réalité familiale semble si actuelle. Nous discutons souvent avec Fanny des problématiques familiales, des siennes, des miennes, des nôtres, de ce qui nous attendra plus tard si nous avons des enfants. Vous pardonnerez ma vision partielle et absolument subjective sur ce sujet, mais avec mon faible recul, j'ai bien l'impression qu'aucune famille n'est idéale. Et ce, depuis Adam, Adam et Ève. Regardez Caïn et Abel, premier frangin, première jalousie et premier meurtre. Dure réalité déjà biblique. Parfois, nous nous surprenons à penser « Ah, mais dans cette famille-ci, tout est beau, tout est bien, rien ne va de travers, alors que dans la mienne. » Et pourtant, souvent, lorsqu'on creuse, ou lorsque les années passent, les difficultés surgissent ou sont mises en lumière, et la vérité est bien moins belle que l'idéal que l'on aimerait voir. Sujet ô combien difficile que celui de la famille, puisqu'il nous touche, personnellement, et à plusieurs niveaux. Si je devais parler de mes problématiques familiales, je parlerais d'abord de mes grands-parents et des recompositions déjà à cette époque qui ont eu lieu. Quand autour de moi, mes copains d'école vivaient avec 4 grands-parents, j'en annonçais 5 à les comprendre. Puis de mes parents, des désastres familiaux causés au fil du temps, de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas encore fini. Enfin de la génération après la mienne, mes neveux et nièces, vivant eux aussi avec un nombre incroyable de grands-parents par le jeu des mariages, des divorces, des remariages. Quelle instabilité. Et pourtant, ma situation n'est peut-être rien face à ce que d'autres peuvent connaître. La famille, c'est si complexe, et ce, depuis le début de l'humanité. Depuis, si l'on doit être exact, l'entrée du péché dans le monde. Dieu n'avait pas créé ces complications familiales, ces déchirements, ces réalités tordues. Mais nous avons péché, et nous récoltons ce que nous avons semé, depuis Adam jusqu'à nous-mêmes. Retour à notre histoire qui repose sur une réalité familiale finalement si banale, malheureusement. La famille, toute une histoire, bien plus complexe que cette parabole, bien plus longue que cette méditation. Cela vaut le coup de se poser quelques questions, de s'interroger sur sa place dans sa famille, le rôle que l'on tient, le rôle que l'on joue. Cela vaut la peine de se dire quelle relation est-ce que j'entretiens avec mes proches ? Et ces relations honorent-elles Dieu ? Ces relations sont-elles saines? Dieu sait ce que nous vivons. Il connaît notre place dans notre famille, il connaît nos douleurs, nos peines. Confions-lui toutes choses, confions-lui notre réalité. Résistons à l'abattement, à la fatalité, et efforçons-nous avec Dieu pour premier allié de détendre nos relations tendues, de désamorcer nos relations conflictuelles et de combattre cette banalité de famille mouvementée. Un vrai enjeu vital. La vie, si Dieu la donne, la vie est faite de choix structurants qui nous engagent et à propos desquels les conséquences peuvent être bien plus amples que ce que nous imaginons. C'est le cas du cadet, le plus jeune fils du père. Je relis à partir du verset 13. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, Une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Le choix du cadet est clair. Il part à l'aventure après avoir pris soin de convertir l'héritage de son père en monnaie sonnante et trébuchante. Le texte nous rapporte qu'il mena grande vie. Dans l'original, il est question de vie de désordre. De quel type de désordre s'agit-il ? Il n'en est pas fait mention ici. On peut tout imaginer. Vie au-dessus de ses moyens, et au fil du temps, sans travail, les ressources s'amenuisent et viennent à disparaître. Jeux, alcool, drogue, prostitution, l'aîné le suggère à la fin du texte. Sa vie est en tout cas en désordre, et qui dit désordre, dit désobéissance à la loi, au commandement de la loi. Son choix est clair, et les conséquences aussi. Très vite, avec l'ajout d'un facteur exogène, une famine qui survient, le fils se retrouve à la rue, sans pouvoir assurer sa survie quotidienne. Sous peine de crever de faim, et c'est l'original qui pourrait se lire ainsi, il décroche un job dans le coin, peu rémunéré, certainement peu flatteur, mais finalement salvateur. Un point d'éclairage historique, ou culinaire, les caroubes dont il est question au verset 16, que le jeune homme aimerait bien manger, c'est une plante, à l'époque utilisée comme fourrage pour les animaux, aujourd'hui comme additif alimentaire. Seuls les très pauvres en mangeaient, et pour souligner davantage cette pauvreté extrême, n'oublions pas que le fait d'entrer en contact avec un gardien de porc, de cochon à l'époque, pour un juif était impur. Alors imaginons la scène, devoir garder soi-même des porcs, image ultime de l'impureté. Quelle déchéance. On continue la lecture au verset 17. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent ?» Alors que moi, je suis ici à mourir de faim, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est le tournant de l'histoire pour notre fils prodigue. Après avoir dépensé son argent, il se met en quête d'un travail qu'il trouve et là, c'est déjà une première bouée d'oxygène. Il peut alors entamer une introspection, une prise de conscience qu'on attendait, nous lecteurs, en lisant la parabole. Évidemment, lorsqu'il compare sa situation avant et après le départ de la maison familiale, le choix est vite fait, c'était mieux avant. Le jeune homme a l'intention de reconnaître son péché, de racheter ses torts, de demander pardon. Quel courage déjà! On pourrait se dire, facile quand on a tout perdu, quand on a échoué, de revenir à Dieu, de demander pardon. Pas si sûr, pas si facile. Je crois que le cadet exprime là un très bel exemple de courage en reconnaissant sa faute. Il aurait pu invoquer par exemple la famine comme raison de sa chute, totalement indépendante de lui. Il n'aurait pas forcément eu tort. Mais non, il reconnaît son péché et s'humilie. Un bel exemple à suivre. Changement de personnage, direction l'aîné. Ce sont les versets 25 à 30 que nous avons lus et relus tout à l'heure. Le fils aîné rentre de son travail dans les champs, certainement épuisé par son labeur, et il s'aperçoit qu'une fête est donnée sans lui. Il interroge un serviteur et apprend le retour de son frère. Quel choix a-t-il à ce moment-là ? Le choix de se réjouir, de courir à la rencontre de son frère, ravi, et rassuré de le revoir après toutes ces années d'inquiétude, ou le choix de refuser tout contact et même tout honneur qui serait rendu à son frère. Rappelons-nous les relations conflictuelles au sein de cette famille presque banale. L'aîné se met en colère, ne comprenant pas l'honneur rendu à son frère, lui qui a dilapidé la fortune paternelle, qui a mené une vie de désordre et certainement de débauche. Et en plus de se mettre en colère, il humilie son père, en refusant d'entrer à l'intérieur de la maison et en faisant sortir son père. N'était-ce pas à lui plutôt d'aller à sa rencontre ? On mesure là encore le niveau d'amour du père pour ses fils, la bienveillance qu'il a à leur égard et sa patience. Au verset 29, « Mais l'aîné répondit, Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Quel choix structurant a donc fait le fils aîné toutes ces années ? Le choix d'obéir à un maître plutôt que d'honorer son père ? Le choix de mettre sa priorité dans ses relations amicales plutôt que ses relations avec son père, son frère ? Les conséquences ? Être resté en dehors d'une relation qui aurait été tellement plus bénéfique pour lui, avec son père, avec son frère ? Être frustré de la vie qu'il a eue ? Se comparer à son petit frère, le jalouser pour l'honneur qui lui est rendu alors qu'il revient à la maison. Des choix structurants qui engagent et ne sont pas sans conséquences. Voilà de quoi est faite notre vie. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous ce fils cadet, loin de Dieu, loin d'une vie centrée sur Christ ? On vit la vie comme elle vient, oh, sans dépenser ce qu'on n'a pas, n'exagérons rien. Puis de toute façon, on ne fait rien de mal. Juste pas de temps pour Dieu, pas de temps pour les frères et sœurs, à peine le temps pour moi, vous imaginez bien. Peut-être sommes-nous ce fils cadet qui a dans le passé fait des pas avec Dieu, de vraies avancées, mais la vie est comme elle est, on est vite rattrapé par sa dureté, sa réalité, parfois loin de l'idéal chrétien auquel on croyait pourtant en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte nouveau dans la foi. Nous avons tout à l'heure parlé de familles déséquilibrées et pourtant si banales. C'est parfois un point de rupture qui nous fait fuir, loin de Dieu. Peut-être sommes-nous ce fils aîné, obéissant envers Dieu, suivant scrupuleusement les Écritures, lisant la Bible tous les jours, priant régulièrement, venant au tabernacle tous les dimanches, aussi les jeudis soirs, et puis au groupe de jeunes, au cercle féminin. Ah, et bien sûr, je donne ma dîme, cela va de soi. Ok, très bien, exemplaire même. Et avec Dieu dans ta relation intime, avec lui. Où en es-tu ? Es-tu avec lui lorsque tu lis ta Bible tous les jours ? Lorsque tu pries régulièrement ? Lorsque tu viens aux tables le dimanche, le jeudi soir ? Et au groupe de jeunes ou au cercle féminin ? Et lorsque tu donnes ta dîme ? A-t-il une place, une vraie place ? Toute la place qui lui est due dans tout cela ? Ou finalement est-ce une religion ? Une façade sans vraie ardeur derrière, sans foi personnelle, sans compréhension de ce que Dieu veut faire pour toi, dans ta vie ? À toi. J'ai certainement été l'un ou l'autre de ces personnages à différents moments de ma vie, pour un mélange de l'un et de l'autre. Qui suis-je aujourd'hui ? Qui que nous soyons, cette parabole nous invite finalement à entrer dans la joie de Dieu, notre Père céleste, et à faire partie d'une famille unie, une famille pas banale du tout. Nous l'avons vu, le père de ses deux fils a déjà fait preuve de bonté extrême. D'une part lorsqu'il distribue les parts d'héritage, d'autre part lorsqu'il sort à la rencontre de son fils aîné en colère. Mais il va encore plus loin, faisant preuve d'une grâce infinie envers son fils cadet, lorsqu'il revient à la maison. Relisons les versets 20 à 24. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Ce père-là n'est définitivement pas comme les autres. Déjà, il court à la rencontre de son fils cadet, et pour cela remonte sa robe, signe d'humiliation. Ensuite, il le rétablit entièrement dans sa fonction de fils, en lui passant la bague au doigt, en le faisant revêtir d'un beau vêtement et en le chaussant de sandales pour le distinguer des serviteurs. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Isaïe 61, verset 10. Le thème du salut, jamais très loin dans cette parabole, approche enfin. C'est là qu'intervient particulièrement la notion de grâce infinie. Rappelons-nous, le fils cadet revient chez son père pour se faire embaucher comme ouvrier, c'était son plan, afin de réparer son tort, de racheter sa dette. Il reconnaît humblement son péché et le confesse devant son père. Mais là où il se trompait, c'est qu'il était incapable de se racheter. Sa dette est bien trop importante. Comment pouvait-il croire un seul instant qu'il était capable, en travaillant pour son père, de racheter sa dette ? Le père, lui, a bien compris tout cela. Il lui offre donc la vie, une vie nouvelle. Et le point culminant de tout cela, c'est la réaction du fils. Il se repent. On a vu tout à l'heure sa prise de conscience, c'était un premier pas pour faire demi-tour. Là, il se repent totalement, publiquement, et accepte de revêtir cet habit de fils racheté. La repentance, c'est la capacité de renoncer à son propre orgueil et d'accepter la grâce offerte. Il comprend que le pardon ne se mérite pas, ne s'achète pas, mais se donne et se reçoit librement, avec humilité et dans la joie. Dans le pardon, l'écoute est importante. Le Père écoute son Fils, qui réalise qu'il a besoin d'être pardonné. Le pardon, comme la miséricorde, c'est l'ouverture du cœur à la misère et aux besoins de l'autre. Le pardon présuppose une offense, et l'offense était là, bien réelle. Le Père est donc en droit de demander réparation à son Fils. Mais le pardon dépasse aussi l'exigence de justice. Pardonnant, le Père prend sur lui l'injustice. En acceptant d'être objet de pardon, le fils cadet montre que la loi n'est pas le dernier mot pour lui. L'amour démontré par le Père l'amène à changer complètement de perspective. Non, il ne pourrait pas être oublié de son Père. Cela ne résoudrait rien. En revanche, il saisit la grâce offerte par son Père. La justice n'est pas pour autant annulée. Elle est dépassée. Le prix a été payé par le Père. Et parce que le pardon est accordé et reçu librement, la réconciliation peut avoir lieu. Dieu nous guette. Il guette notre retour, il n'attend que cela. Et dès que nous nous approchons de lui et nous repentons, il nous prend dans ses bras et nous revêt du vêtement du salut. Enfin, un mot sur le fils aîné. Nous avons vu sa colère, ses frustrations qui ressortent après tant d'années. Voici la réponse du Père. Versets 31 et 32. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu. Et voici qu'il est retrouvé. » Si nous sommes à Christ, réalisons-nous que nous sommes concitoyens des cieux, avec un libre accès au Père Céleste. Notre héritage est préparé. Nous serons avec Christ et tous nos frères et sœurs sur la nouvelle terre lorsque Christ reviendra. Le royaume de Dieu est à portée de main. Dieu nous l'assure. Saisissons cette grâce. La justice est accomplie dans cette parabole. Le Père justifie le fils cadet sans tenir compte de ses faiblesses, de ses loupés, de sa fuite. Et dans le même temps, il justifie le fils aîné, sans méconnaître ses mérites, ni ses incompréhensions, sans lui reprocher sa colère et ses frustrations. La main lui est tendue. Et c'est ainsi ou presque que se termine la parabole, sur l'appel implicite à l'aîné. Quel choix, là encore, va-t-il faire ? Quel choix, là encore, allons-nous faire ? Le texte ne se termine pas sur cette question laissée en suspens, mais sur une note plus joyeuse. Le cadet était perdu, il est retrouvé. Voilà le fin mot de l'histoire. Et de manière plus symbolique, il était mort et il est revenu à la vie. Mort au péché, revenu à la vie en Christ, c'est ce que je désire nous souhaiter à chacun d'entre nous. En Jésus, par son œuvre à la croix, notre dette a été payée. Il a pris sur lui le poids de notre condamnation. Il nous a rachetés. C'est une réalité. Il suffit de l'entendre, de laisser tomber notre orgueil et d'accepter cette grâce infinie de Dieu pour vivre une nouvelle vie. Pourquoi tant de joie à la fin de cette histoire ? La joie du pardon d'une part, la joie du salut d'autre part. Je me sais pardonné, je me sais sauvé. Quelle grâce infinie ! Au verset 2, les pharisiens et spécialistes de la loi s'indignaient du fait que Jésus s'attable et festoie avec des pécheurs. Mais Jésus est justement venu sur terre pour cela. Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, à nous pécheurs, pour nous sauver, nous racheter et se réjouir avec nous. Jésus est la sortie du Père vers le Fils, pour aller à sa rencontre, pour aller à notre rencontre. Tournons-nous vers lui, saisissons cette grâce. Amen.